Studio Tamani, voici nos informations en français.
L'attention est restée vive aujourd'hui à Kidal. Le président du MNLA, Bilal Ag Ashérif, a atterri hier soir. Dès son arrivée, le leader du MNLA a été pris à partie et hué par ses partisans, notamment des femmes. Ces dernières refusent toujours de quitter le RTM et le gouvernorat. Des membres d'ACMI ont été neutralisés cette nuit dans la région de Tessalit. Les forces françaises ont repéré un pick-up dans le désert et ont réussi à mettre la main sur un stock d'armes. Les appels lancés par les responsables de la MINUSMA commencent à être entendus. Les 6000 casques bleus basés au Mali devraient prochainement être renforcés. Trois pays, le Burkina Faso, le Rwanda et le Cambodge, viennent d'annoncer qu'ils vont envoyer des troupes. Voilà, c'était là les titres de votre journal qui sera présenté par Salim Tadao. La tension est restée vive aujourd'hui à Kidal. Le président du MNLA, Bilal Ag Ashérif, est finalement arrivé hier soir après une escale à Tessalit. Accompagné d'une forte délégation composée des responsables des deux autres mouvements, le HCUIA et le MAA, et de membres de la commission technique mixte de sécurité, Arkaturi.
Dès son arrivée, le leader du MNLA a été pris à partie et hué par des membres de son mouvement, notamment par des femmes en colère. Ces dernières refusent toujours de quitter l'URTM et le gouvernorat. Bilal Ag Ashérif a dû passer de nombreuses heures, notamment à la radio, à convaincre ses partisans et ceux des quatre autres groupes de quitter le gouvernorat et les locaux de la radio-télévision nationale. Selon des sources jointes au téléphone dans la ville et qui requièrent anonymement, le président du MNLA a essuyé les invectives de femmes de la communauté Touareg qui lui reprochent de vendre, je cite, les populations au Mali. Si les hommes armés ont d'ores et déjà déserté les sites du gouvernorat et de l'ORTM, en revanche, des groupes de femmes avec leurs enfants ont décidé de ne pas les quitter. Elles ont installé des abus devant le gouvernorat et ont fait brûler des pneus. Les manifestantes affirment qu'elles empêcheront l'accès aux des immeubles tant qu'elles n'auront pas obtenu la libération de leurs parents, maris, frères et enfants détenus illégalement à Bamako. Elles exigent aussi l'intervention de la force servale pour faciliter ces libérations.
Nous venons de l'apprendre, les clés de la cité administrative de Kidal, y compris les locaux du gouvernorat et de l'ORTM, ont été remis à l'adjoint du représentant de la MINUSMA au Mali, le professeur Abdoulaye Batili. La remise a été faite vers 14h30 par le représentant du MNLA, Bilal Ag Ashérif, venu spécialement du Burkina Faso pour les besoins de la cause. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Des membres d'ACMI ont été neutralisés cette nuit dans la région de Tessalit. Les forces françaises ont repéré un pick-up dans le désert et ont réussi à mettre la main sur un stock d'armes.
Les opérations militaires au Mali se poursuivent. L'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des forces françaises, l'a confirmé ce matin depuis Paris. La nuit dernière, a-t-il indiqué, un groupe désigné comme appartenant à Al-Qaïda a été neutralisé dans le désert à environ 200 km à l'ouest de Tessalit. Cette opération est toujours en cours avec la récupération du matériel qui devrait donner des informations aux services français du renseignement. L'amiral Guillot a rappelé que la force servale avait deux manières d'agir au Mali, soit de grosses opérations comme celle qui a été baptisé Hydre, soit des actions de type chasse sur le terrain ou enfin la collecte d'informations auprès de populations. Le chef d'état-major a estimé que la force servale au Mali n'est pas achevée, même si le niveau de violence a énormément baissé. En 8 mois, nous avons fait des avancées phénoménales. Il a confirmé que l'armée française coopère aussi bien avec les pays voisins, Niger, Burkina Faso, éventuellement Tchad et également avec l'Algérie, de façon qu'il n'y ait pas de sanctuaire.
Baye Aga Bakabo, un Touareg lié à la fois au MNLA et aux djihadistes d'Al-Qaïda, a été identifié comme le principal suspect de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est ce qu'a révélé hier le procureur de la République de Paris. L'enquête va se poursuivre pour déterminer les circonstances du double meurtre. S'agit-il d'un enlèvement qui a mal tourné ou d'un assassinat programmé? En tout cas, une question se posera au terme de l'enquête où seront jugés les meurtriers. Maître Amadou Tioulé Diara, avocat à la cour, écoutons.
L'idée qui est en filigrane, c'est certainement ce qui va consister en fait à dire que, eh bien, si on les arrête, peut-être qu'on va les emmener en France pour les juger là-bas.
Vous trouvez ça normal?
Non, je trouve pas ça normal justement. parce qu'il n'y a absolument rien aujourd'hui qui empêche les juridictions maliennes de juger ces délinquants-là, ces criminels. Si ce ne sont pas français, le lieu des infractions, c'est le Mali. Si ce n'est pas des infractions de génocide, des infractions contre, en fait, des crimes contre l'humanité, eh bien, je pense que c'est les juridictions maliennes qui sont compétentes. Et la France peut parfaitement demander à ce que les intérêts civils des deux journalistes soient sauvegardés. Cela est possible, c'est ce qui est normal dans les nations. Voilà.
Les appels lancés par les responsables de l'AMINUSMA commencent à être entendus. Les simulcasques bleus basés au Mali devraient prochainement être renforcés. Trois pays, le Burkina Faso, le Rwanda et le Cambodge, viennent d'annoncer qu'ils vont mettre à disposition des Nations Unies une partie de leur contingent.
Attendus pour la fin de l'année, les renforts de l'AMINUSMA commencent à se profiler après la confirmation néerlandaise de l'envoi de 380 soldats et de 4 hélicoptères Apache qui seront basés à Gao. Avec 150 soldats, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a décidé l'envoi au Mali d'un contingent burkinabé de 935 hommes supplémentaires. Il s'agit pour la plupart des gendarmes. Par ailleurs, le Cambodge compte fournir 298 soldats à l'AMINUSMA. Au total, 154 soldats de l'unité d'ingénierie aéroportière et 144 autres de l'unité de neutralisation des munitions explosives seront déployés en décembre au Mali. Ils commenceront leur mandat en janvier prochain. Depuis 2006, le Cambodge a envoyé 1600 soldats de la paix au Soudan du Sud, au Tchad, en Centrafrique, au Liban et en Syrie. Enfin, le Rwanda a annoncé qu'il allait déployé pendant un an 140 policiers au Mali.
Plus d'un milliard 500 millions de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement malien va allouer au programme d'urgence de la région de Gao. Ces programmes vont durer 3 ans, 3 mois et vont permettre de remettre à neuf les infrastructures sanitaires, scolaires qui ont été détruites lors de l'occupation de la ville par les djihadistes. Cette mesure a été annoncée hier à Gao lors de la visite du Premier ministre accompagné de 7 membres du gouvernement.
Même si le document n'a pas été mis à la disposition des médias et en attendant la conférence de presse traditionnelle, le rapport du vérificateur général fait état de plusieurs milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État malien. La structure de contrôle épingle plusieurs services publics et dénonce de nombreuses irrégularités dans les procédures de dépenses et de passation des marchés publics. Parmi ces services épinglés, figure la primature sous la transition avec Cheikh Modibo Diarra et Django Sissoko, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et le Paris Mutuel Urbain PMU. Mais le chapitre qui est particulièrement pointé du droit est la procédure d'attribution de la troisième licence de téléphonie globale. Le rapport fait sur ce sujet un certain nombre de griefs. Le rapport annuel du bureau du vérificateur général doit être transmis très prochainement au juge anti-corruption.
C'était là le commentaire de Issa Fakava Sissoko par rapport à la remise au président de la République du nouveau rapport annuel du bureau du vérificateur général qui attend encore d'être mis à la disposition du grand public. Mais en attendant, son contenu fait débat et plusieurs services publics sont épinglés dans la primature sur la transition et l'attribution de la troisième licence de téléphonie mobile. Malgré la mise en place des structures de contrôle, la corruption et la délinquance financière ne connaissent pas du recul au Mali, au point que les Maliens se demandent à quoi servent les rapports de contrôle. Pour ce professeur d'économie et de maths appliquées à sub-management de l'Université de Bamako, les rapports au Mali servent à satisfaire les exigences des bailleurs de fonds que la lutte efficace contre la pratique. Dr Étienne Oumar Sissoko est au micro de Issa Fakava Sissoko.
Les rapports sont en réalité au Mali une vraie diversion. Parce que quand vous regardez pourquoi ces rapports sont produits, c'est d'abord une exigence de nos partenaires qui exigent pour débloquer certains fonds d'avoir des rapports préliminaires de travail. Et donc les rapports sont produits d'abord pour rassurer ces investisseurs-là. Et deuxième chose, c'est que quand vous regardez le contenu également de ces rapports, les chiffres ne sont pas cohérents avec le projet même. Donc les rapports sont produits juste dans ce sens-là pour rassurer nos partenaires. Il faut deux choses à mon avis. La première, c'est d'abord la sensibilisation sur les méfaits de la corruption sur l'activité économique. Et dans un second temps, il faut la répression. Parce que on sait, à travers les rapports du vérificateur général, on connaît les secteurs qui sont soumis à de grandes fraudes. On sait également les personnes qui sont responsables de ces fraudes. Donc il faut que ces personnes-là répondent devant la justice. Et dans un second temps aussi, il faut aller au-delà de la répression, mettre en place de véritables structures de contrôle de l'activité économique. Pour lutter contre la corruption, il faut un tout. Or, la justice, telle qu'elle fonctionne actuellement, ne répond pas aux besoins des populations qui ont besoin quand même d'être assurées que s'ils ont un problème et qu'ils arrivent devant la justice, qu'ils peuvent avoir gain de cause. C'est cela le problème. Il faut donc revoir le fonctionnement même de la justice et pour qu'elle puisse faire réellement son travail.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute et bonne suite de programme.